Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau carnet de région. Cette semaine et jusqu'à fin décembre, c'est 48 FM qui vous accompagne tout au long de votre magazine. Au sommaire, gilets jaunes alors que les manifestants appellent à un acte 6. Emmanuel Négrier, directeur de recherche du CNRS en sciences politiques, pense que le mouvement pourrait bientôt être amené à s'arrêter. Remplir un sac à dos pour les sans-abri, Thierry Telade, président de l'association Sac à dos, nous explique son action. Petite start-up devenue grande, c'est l'histoire de Joli Click, une entreprise lausérienne au projet ambitieux exposé par son directeur, Christopher Desfontaines. Enfin, le professeur François-Bernard Michel nous parlera du Lèze et du livre qu'il a consacré à ce fleuve emblématique.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Gilets jaunes, le mouvement dure depuis plus d'un mois. Les manifestants appellent à un acte 6 samedi. La semaine passée, leur nombre était en baisse, mais les gilets jaunes restent mobilisés et visibles autour des points stratégiques. Emmanuel Négrier est directeur de recherche CNRS en sciences politiques au Centre d'études politiques d'Europe latine de Montpellier. Interrogé mardi, il estime que seule l'accumulation de plusieurs éléments pourrait amener le mouvement à s'arrêter.
Le premier, c'est évidemment l'idée selon laquelle le gouvernement réponde trait pour trait aux demandes qui se sont exprimées. La chose est totalement impossible dans la mesure où les demandes elles-mêmes sont contradictoires entre elles et où il ne s'agit pas d'un gouvernement suffisamment à gauche pour pouvoir satisfaire les revendications qui sont, elles, plutôt marquées à gauche et qui n'ont pas encore été satisfaites, notamment celles qui concernent les inégalités fiscales. Ça, c'est la première chose, donc qui rend peu vraisemblable l'extinction du mouvement par l'offre gouvernementale directe. Après, il peut y avoir une canalisation par ce dialogue octroyé par le gouvernement à l'échelle territoriale et orchestré par les maires. On va voir ce que ça va donner. Ce qui peut, par contre, atteindre le mouvement, c'est l'idée selon laquelle la population, c'est-à-dire l'opinion publique qui n'est pas mobilisée et qui jusqu'à présent, à 2/3, à 3/4, soutient le mouvement, s'en détache un petit peu sur l'argument, bon, ben, finalement, vous avez obtenu un petit peu ce que vous souhaitiez, maintenant il faut peut-être rentrer chez soi, qui enlèverait un peu cet ingrédient de fierté qui est aujourd'hui celui des gilets jaunes. Et puis ne l'oublions pas, il s'agit de gens qui sont actifs beaucoup, il y a quand même une fatigue qui se fait sentir sur les ronds-points et l'idée selon laquelle bon, ben, il faudrait peut-être un petit peu penser à autre chose. Le froid, la proximité des fêtes de fin d'année peuvent s'ajouter également à ces ingrédients, mais ce serait une erreur de penser que la mobilisation s'affaiblissant, les raisons pour lesquelles la protestation politique s'est exprimée auraient disparu. Et il n'est pas impossible que les gilets jaunes représentent, au-delà des ronds-points du mois de décembre, un point de repère, un point de ralliement politique plus durable, sans forcément d'ailleurs que ça se traduise par la composition de listes à je ne sais quelle élection prochaine.
Dans la nuit de dimanche à lundi, des gilets jaunes ont mis le feu au système électrique du péage de Béziers-Cabrial entre l'A75 et l'A9. Le groupe Vinci Autoroute a estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros les dégâts causés par les manifestations sur son réseau depuis un mois. Xavier Terrien pour Radio Pays d'Hérault. L'opération Sac à dos a été lancée cette semaine à Montpellier. Le principe est simple, remplir un sac à dos avec plusieurs kits à destination des SDF, mais en 13 ans d'existence, quelle nouveauté pour l'association? Les explications de Thierry Telade, président de l'association Sac à dos.
Je dirais que malheureusement, il n'y a rien de nouveau, parce que nous sommes un peu comme les Restos du Cœur. Il y a 13 ans, avec Pascal, nous avons créé Sac à dos. On ne pensait pas que 13 ans après, on serait encore là. Et malheureusement, 13 ans après, Sac à dos est toujours là, parce qu'il y a encore des besoins par rapport aux sans-abri.
On rappelle le sac à dos très vite, comment ça fonctionne?
Sac à dos, c'est très simple. Vous prenez un sac à dos de 35-40 litres, vous y mettez à l'intérieur 4 kits, un kit chaleur avec des vêtements pour lutter contre le froid, un kit hygiène, un kit festif qui va permettre de faire un petit repas amélioré à cette occasion des fêtes de fin d'année, et celui auquel je tiens le plus, qui est le kit culture et communication, qui va contenir un jeu, des enveloppes timbrées, qui va permettre à sans-abri de recréer du lien et retrouver de l'estime de soi. Ces 4 kits vous les mettez dans votre sac à dos de 35-40 litres, vous l'amenez au club de la presse ou dans une des maisons de service de l'ADMR, dont vous trouverez les adresses sur Internet. Et les bénévoles sac à dos de Montpellier, de l'Hérault ou de partout en France viennent donc récupérer votre sac pour le distribuer en fin d'année à destination des sans-abri.
C'est une opération qui ne pourrait pas exister sans les collégiens, lycéens, sans l'éducation nationale finalement.
C'est une opération qui a deux niveaux, une partie éducation nationale dont vous avez parlé, mais aussi une partie grand public. Mais c'est une opération qui ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas de donateurs. Et la particularité de Sac à dos, c'est que nous fonctionnons sans argent. C'est-à-dire que 100% des dons qui nous sont faits vont aux bénéficiaires, c'est-à-dire les sans-abri, celles et ceux qui dorment dans la rue.
Quel est le rôle justement des collégiens, des lycéens ?
Auprès d'eux, on a deux actions. Une action de réalisation de Sac à dos, qui est la finalité de l'opération, mais aussi une action de sensibilisation à la précarité, à la citoyenneté et à la solidarité. Donc il y a deux, moi je dis toujours, il y a une partie immergée de Sac à dos et une partie émergée. La partie émergée, c'est l'action grand public qui démarre aujourd'hui où on propose aux gens de confectionner le sac à dos avec 4 kits et de le déposer dans nos points de dépôt. Et la partie immergée, c'est tout le travail qui est fait auprès des écoles, les lycées et les collèges partout en France pour sensibiliser à la précarité, à la solidarité et permettre de réaliser ces sacs à dos. Ce sont deux parties qui composent l'iceberg Sac à dos.
Thierry Telade, président de l'association Sac à dos, au micro de François Charbonnel pour RCF Maglone Hérault. Une bonne année pour la jeune start-up lausérienne Joli Click. Après une levée de fonds de 800 000 euros, l'entreprise peut continuer de développer son nouveau réseau social lancé il y a peu. Christopher Desfontaines, fondateur et directeur général de Joli Click.
Parmi la population de travailleurs actifs, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de freelance, d'indépendants, d'auto-entrepreneurs, de salariés portés. Enfin, qu'est-ce que tous ces gens ont en commun ? C'est une forme de liberté ou moins d'autonomie. Ils sont à leur compte, à leur propre compte. Ça fait d'eux des travailleurs qui ont d'autres modes de travail, d'autres façons de travailler que l'employé classique. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont un peu perdus puisque la société n'a pas été faite pour eux et la croissance qu'on connaît parmi ces gens-là est nouvelle. Donc elle s'adapte, hein, la société s'adapte, il y a de plus en plus de solutions, d'accompagnement, de choses qui encadrent, de communautés qui naissent pour accompagner cette population de travailleurs. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas de réseau social pour eux. On est, nous, basés sur les projets des gens, que ce soit une idée, que ce soit une start-up, une association, un album de musique, peu importe le projet que chacun a, nous, on permet à ce que vous puissiez poster ces projets sur le réseau social et ainsi les faire découvrir, les rendre visibles à l'ensemble de la communauté. Cette façon de profiler les projets, en plus des talents, bien sûr, qui, leur espace privé, leur espace à eux, leur espace de CV, en quelque sorte, se rafraîchit. Donc cette possibilité de profiler des projets, ça permet de, comme je l'ai dit, de rendre visibles les initiatives, les bonnes idées de chacun, et donc de les mettre en relation sur cette base-là. Parce que notre cœur de métier, c'est de mettre en relation, de créer des relations humaines.
Joli Click compte environ 27 000 utilisateurs, un nombre qu'elle espère voir augmenter pour atteindre les 200 000 en 2020. Ne réduisez jamais un fleuve à son cours d'eau écoulé vers la mer. Ne le limitez pas non plus à sa chimie, H2O, substances minérales et organiques. Sa réalité est tellement supérieure à toute apparence. Ainsi, le lèse, ne le voyez pas banal ou pire, insignifiant. Infiniment vieux, il a l'âge du monde et demeure pourtant un personnage contemporain, aussi original qu'attachant. Le rêve de feu Georges Frêche, ancien maire de Montpellier et président de région, était de rallier Montpellier à la mer. Le lèse en est peut-être la voie royale. À l'occasion de la dédicace de son livre « Fleuve Lèze » à la librairie Soran le 14 décembre dernier, le professeur François-Bernard Michel a rencontré la journaliste Camille Tabé pour lui parler de son ouvrage.
C'est le fleuve de Montpellier Métropole. Longtemps, les Montpellérains l'ont ignoré, voire un peu snobé, parce qu'il n'était pas toujours très beau, il était même sale. Et puis, il n'est pas accessible partout. Mais c'est dommage, et ce livre est destiné non pas à le réhabiliter, mais à le faire aimer des Montpellierains. C'est leur fleuve qui maintenant divise la ville en Montpellier historique et Montpellier la nouvelle. Et donc, j'espère que ce livre contribuera à le faire découvrir, car il le mérite. Il y a des très beaux endroits où on peut aller flâner, on peut marcher le long de ses rives. C'est vraiment un fleuve, ce n'est ni la Seine ni la Loire, mais c'est un fleuve intéressant. C'est un fleuve côtier, mais ça n'est pas péjoratif. Ce sont les frères Plater, qui, vous le savez, sont des Suisses venus étudier la médecine à Montpellier, qui, l'un des frères Plater, donc, a remonté tout le cours du fleuve à pied en une journée. À ce moment-là, la marche à pied, c'était l'unité de longueur. Et il a écrit à son père, « Oh, c'est une petite rivière, on fait le trajet dans la journée. » Voilà. Il n'était pas possible de montrer, de parler de ce fleuve sans le montrer. Et vous avez pu constater qu'on trouve en de nombreux endroits des très beaux paysages de autour de ce fleuve, et je dois à l'amitié de René Ventura d'avoir pu prendre ces magnifiques clichés qui sont reproduits dans le livre. Le Lesse était un fleuve commercial, les bateaux remontaient jusqu'à Port-Juvénal pour faire l'échange au-delà de Latte, qui était le port primitif des Romains. Mais ce rêve de Georges Frêche est mort-né. Vous savez qu'il y a 3 écluses, il faudrait les reconstituer, ça prendrait beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Donc non, on ne reverra pas les bateaux à Montpellier. Mais enfin, le nouveau maire Sorel a eu la très bonne idée de bâtir sa mairie sur le Lesse, ce qui fait que Montpellier est toujours près de la Méditerranée.
Édité aux éditions Gossan, Fleuve Lesse est disponible dans toutes les librairies. Un sujet réalisé par Camille Tabé pour Radio Aviva. C'est la fin de ce carnet de région, merci de l'avoir suivi. En janvier, c'est une autre radio qui prend le relais, mais toujours à la même heure et à la même fréquence.
Carnet de région.
Une réalisation des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.